18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver. Bonjour, chers auditeurs, partout en France qui nous écoutez. Justement, nous sommes ensemble et j'ai raté le top horaire pour notre ami. Mais on est en retard. Que partie remise. Effectivement, 18h, 19h30, vous le savez, c'est ici que ça se passe, justement, avec le, au sommaire, ce que je vous propose, eh bien, au menu, d'abord les sujets qui nous animent, la colère qui monte, la galère, et maintenant, la colère. Vous le savez, au 01 53 48 3000, eh bien, vous le savez, c'est vous qui êtes prioritaire pour venir parler de pénurie. Où peut-on trouver de l'essence? Comment ça se passe pour vous, notamment, ceux qui nous écoutez? Les débats tant des influenceurs, c'est aussi vous à partir de 18h30 jusqu'à 19h30 avec les sujets qui ont retenu notre attention. Édouard Philippe, prochainement convoqué par la Cour de justice pour la Covid-19. On parlera aussi de la polémique à la NUPES. Mélenchon compare la marche du 16 octobre à la Révolution. Que peut-on attendre de cette marche, la marche contre la vie chère? On reviendra sur le carburant, mais également la guerre en Ukraine avec les différentes négociations. Notamment, il ouvre un dialogue, Vladimir Poutine, avec pour la centrale. Mais il y a aussi cette guerre en Ukraine. Toutes ces bombes, on en parlera tout à l'heure. Et l'interview du jour, aujourd'hui, ce mardi, c'est avec Riab Afidi, qui est la secrétaire générale justement de l'Association des Tunisiens des grandes écoles de France. On va l'accueillir parce qu'ils ont un événement ce week-end, un bel événement. On va tout de suite découvrir cela dans une poignée de minutes. Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, et Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti tout de suite pour l'interview du jour.
Les Informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Riab Afidi. Bonjour Riab Afidi.
Bonjour, je suis très content d'être parmi vous.
Bah partagez. Partagez, vous représentez l'Association des Tunisiens des grandes écoles, la secrétaire générale, c'est vous. Et vous êtes avec nous parce qu'il y a un événement justement, qui se déroule le 15 octobre prochain. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots? Cet événement, c'est un grand forum, me semble-t-il, de l'entrepreneuriat.
Oui, effectivement. Donc, notre association œuvre depuis des années dans le soutien des entrepreneurs franco-tunisiens, surtout ceux de la diaspora tunisienne ici. Et on a décidé cette année d'organiser un grand événement qui est le Grand Forum de l'entrepreneuriat tunisien et qui va avoir lieu effectivement ce samedi, le 15 octobre, du matin jusqu'au soir, dans le 7e arrondissement de Paris, à Sciences Po.
À Sciences Po, dans le 7e. Ouais. Parce que ça, c'est là, justement, ce grand forum, c'est après le succès aussi des précédentes éditions, hein, justement, de la création des start-up Art Venture.
Exactement. En fait, le club entrepreneur de la Tuge organise chaque année, depuis 13 ans maintenant, un programme d'incubation et un concours de porteurs de projets qui est dédié à la diaspora tunisienne ici en France. On les aide à développer leurs projets via des ateliers sur le design thinking, sur le business plan. On les met en contact avec des mentors et des coachs pour les former. Et à la fin, il y a le pitch final qui permet d'élire le ou la gagnante du concours. Et donc, du coup, pendant 13 ans, on a eu beaucoup de succès. Cette année, on a pu l'élargir sur plusieurs pays. Et c'est pour ça que cette année, on a décidé d'organiser un grand événement pour célébrer ça.
Et ouais, vous voyez les choses plus grandes cette année.
Oui, effectivement.
Donc, alors justement, année, on va parler un peu plus
de concours.
Pardon, vous avez dit quoi?
Oui, du coup, cette année, ce qui est prévu, c'est pas que le concours, pas que la finale, mais toute une journée avec des ateliers, des tables rondes et un salon d'expo.
Eh ben, on va en parler justement. Ce rendez-vous des entrepreneurs, des investisseurs, des incubateurs justement de l'entrepreneuriat. Grand forum très attendu à Sciences Po dans le 7e. J'aimerais que justement on parle du programme qui nous attend. Alors, comment s'organise justement cette journée, ma chère Riab?
Alors, donc, l'ouverture commence à 10h du matin avec un mot d'ouverture. On a trois tables rondes qui sont prévues. Une première sur le rôle de la femme dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Une deuxième sur la fintech, les tendances qui sont en train de révolutionner en ce moment les services financiers. Mmh. Et une troisième sur la levée de fonds VC en Afrique. Donc, pour chaque table ronde, on va avoir des experts de la France, de la Tunisie, qui vont venir échanger avec nous et avec le public pour donner une vision plus grande et plus large de ces thématiques. Après, durant l'après-midi, on va lancer en fait la finale du concours Adventure. Donc, on aura nos 6 finalistes qui vont pitcher devant le public et devant les membres de jury. Et on va du coup choisir les 2 lauréats du prix public et du prix jury. Et à la fin de la journée, il y aura la clôture avec une conférence sur le rôle de la diaspora tunisienne dans le développement d'écosystèmes entrepreneuriales et comment ils peuvent soutenir et aider les entrepreneurs dans l'écosystème entrepreneurial en Tunisie et en France en créant des liens entre les deux rues.
Ça promet tout ce que vous dites, hein. Effectivement, ça donne envie. Dites-moi, Riab Afidi, Madame la Secrétaire Générale, quand je vois ça, évidemment, vous avez lâché le mot diaspora, pardon, dans ce prestigieux lieu qui est l'école de Sciences Po dans le Paris 7e. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, justement, tunisiens qui viennent de Tunis ou de Tunisie qui viendront participer justement à ce grand forum?
Oui, effectivement, nous avons 10 startups qui vont venir de la Tunisie participer dans le forum. Ce sont de grandes success stories comme Expansia, comme TapTapSen, Diochpi, Sinoya, des startups qui sont dans différents secteurs, dans l'intelligence artificielle, dans la biotech, dans la fintech. Et il y aura aussi, bien sûr, des startups créées par des Tunisiens qui sont basés ici en France. Donc, il va y avoir un mélange des deux.
Est-ce que vous avez, comme tout grand forum, vous savez, on a toujours des parrains, des marraines, des grands chefs d'entreprise qui viennent donner un peu leurs sentiments. Est-ce que vous avez prévu cela?
Oui, alors...
Ma question n'est pas anodine.
Oui, l'édition de cette année, elle est super parce qu'on a 3 parrains. Oui. Le premier, c'est M. Kerim Jouini, le CEO fondateur de Expansia. La deuxième, c'est une marraine, c'est Mme Samar Louetti, qui est fondatrice de Bridging Angels. Et le troisième, c'est M. Mounjizidi, qui est le président de la French Tech League. Donc, les 3, ils sont les parrains de l'édition de cette année. On aura aussi plusieurs... grandes figures de l'écosystème entrepreneurial qui seront présents, comme M. Mahdi Hawass, l'ancien ministre et le président fondateur de Talan. On aura aussi M. Mounzer Aliadi, le PDG de Numérix. En tout cas, on a de grandes têtes d'affiche.
Grandes têtes d'affiche, la promotion de l'entrepreneuriat tunisien. Pourquoi vous vouliez effectivement le faire dessiner au travers de ce grand forum? Pour quelle raison? Quel est votre objectif?
Alors, l'objectif principal de ce forum est du club entrepreneur, et c'est aussi notre mission depuis le début de ce club, c'est de promouvoir l'excellence, de promouvoir l'innovation tunisienne, de pousser les Tunisiens qui sont ici à innover, à créer de la valeur, à créer des startups. Aujourd'hui, la diaspora, elle représente 13% de la population tunisienne. Il y a une grande majorité qui est ici en France,
13%,
qui a un grand potentiel et qui représente un grand potentiel avec des moyens financiers, des compétences et de l'expertise. Donc notre rôle, c'est de les encourager, de les pousser à mettre en œuvre ces compétences et ce potentiel pour créer de la valeur.
La valeur, est-ce que ça se traduit, y compris par justement créer un pont entre la Tunisie, mais également la France?
Exactement.
Exactement?
Oui. Donc,
mais c'est quoi l'intérêt? C'est justement parler de ce vivier?
Alors, cette année, ce qui est intéressant, c'est que ce forum, il ne se passe pas seulement en présentiel, il est aussi diffusé live sur la plateforme Éveil, qui va permettre aussi aux participants qui sont en Tunisie, qui ne peuvent pas venir, de tout suivre en direct, d'interagir dans les chatrooms et de poser des questions à des intervenants qui sont présents le jour J. C'est très important pour nous de pouvoir créer ce pont, parce que c'est à travers ce pont-là qu'on va pouvoir ouvrir les 2 écosystèmes entrepreneuriaux qui sont en Tunisie et en France, et c'est cette ouverture qui va leur permettre d'échanger et d'évoluer encore plus.
Dites-moi, Madame la Secrétaire Générale, justement, cette nouvelle édition, elle va la rassembler combien de participants au total? Vous attendez combien de personnes au sein de ce prestigieux lieu qui est Sciences Po?
Alors, on attend pour le moment, pour la journée de samedi, dans les 500-600 personnes.
Combien? J'ai pas entendu.
500, 600 personnes.
C'est beaucoup, hein, c'est pas mal.
En
hein.
termes de public.
Ouais, c'est pas mal, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de lancer comme principal message, justement, à celles et ceux qui vous écoutent, Riab Hafidi?
Le principal message, c'est les Tunisiens qui sont en France aujourd'hui sont un grand potentiel pour le pays et ils sont là pour créer, pour innover. Donc, venez les découvrir, venez échanger avec eux et n'hésitez surtout pas à vous inscrire et à venir faire la rencontre des différents acteurs des écosystèmes français et tunisiens qui seront présents à vie.
Alors, il se trouve que parmi les débatteurs qui vont échanger leur point de vue tout à l'heure, Riab Hafidi, on a donc un des participants qui, justement, va se retrouver dans votre table ronde ce 15 octobre. Il s'appelle Rayed Chaibi, que vous connaissez. Il souhaite vous interpeller. Bonjour, Rayed Chaibi.
Bonsoir, Adil. Bonsoir aux auditeurs. Et un très grand plaisir de retrouver Riab. Bonsoir.
Bonsoir.
Très très heureux de pouvoir retrouver.
Vous allez participer, hein.
Tout à fait. J'aurai le plaisir de participer à la conférence justement sur le rôle de la diaspora dans l'écosystème entrepreneurial tunisien. Et ça me tenait au cœur en fait de pouvoir intervenir, cher Adil, et je vous remercie de me donner la parole durant cette interview parce que je voudrais vraiment et je tiens vraiment à saluer le très très gros travail qui est réalisé par la TUJ, par l'association des Tunisiens des grandes écoles, oui. Notamment sur ce grand forum, saluer bien sûr Liham, mais à travers elle, Marwa Mezrani, la présidente, saluer Marwa Illy, et puis Inès Trojette, et toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette organisation. La TUJ est vraiment une association qui fait un énorme travail dans en étant une véritable force de proposition entre nos deux rives. Et cet événement incarne parfaitement ce que doit être la relation entre la France et la Tunisie, c'est-à-dire une passerelle entre nos deux rives et de mettre en avant ce que la diaspora tunisienne peut avoir de fabuleuse et de créative. Et donc saluer ici publiquement le rôle de la TUJ, l'énorme travail qui est fait, et souhaiter vraiment bonne chance à cet événement qui, je n'en doute pas, sera une grande réussite.
Riab Hafidi, rappelons le lieu, l'adresse et la date pour le grand forum qui se tient donc très prochainement.
Donc ça sera à Sciences Po, dans le 7e arrondissement, à partir de 10h et jusqu'à 18h30, ce samedi, le 15 octobre. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire, soit pour venir le jour J en présentiel ou pour suivre l'événement en direct, il suffit d'aller sur le site atuj.eveil.live. Sinon, nous avons nos pages sur Facebook et sur LinkedIn à TUJ, sur lesquelles vous pouvez trouver toutes les informations.
Secrétaire général donc de l'Association des Tunisiens des grandes écoles, Riab Hafidi, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et bon courage.
Et allez,
bon courage.
Merci et bon courage surtout. Et évidemment, les auditeurs sont attendus à cet événement. Riab, on vous retrouve dans une poignée de minutes.
Tout à fait.
Absolument.
Avec plaisir.
Allez, j'ouvre le standard 01-53-48-3000. On parle de cette pénurie de carburant, mais aussi, vous savez, l'État qui réquisitionne eh bien certaines raffineries. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que les grévistes eux-mêmes ne veulent pas bloquer les raffineries? Et puis aussi, autre question, est-ce que ça risque pas d'endurcir, si vous voulez, les grévistes, en considérant que l'État, effectivement, veut réquisitionner les raffineries? On va en parler, parce que ça devient très compliqué. Autant dire qu'il y a un véritable bras de fer qui s'annonce entre les grévistes, entre Total, entre le gouvernement d'un côté, bras de fer qui peut se dénouer, c'est la question qu'on pose. Mais surtout, je vous attends, venez nous parler, évidemment, si vous vivez des galères, mais la galère aussi qui peut se transformer parfois en colère. 01 53 48 3000, comment vous organisez dans votre quotidien désormais? Si vous êtes infirmier, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes taxi, si vous êtes Uber, si vous êtes si, tout ça, eh bien, venez nous appeler au 01 53 48 3000. Le standard est ouvert. Je vous attends. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h21, avant de retrouver les débatteurs influents sur le face-à-face, j'aimerais vous dire tout simplement une chose, c'est que je vous attends au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000, pour parler du carburant, de la pénurie, de la colère, des galères, tout ça effectivement. Comment vous vous organisez dans votre quotidien? Vous, je voudrais vous entendre, tous, celles, effectivement, dans les régions, dans les provinces, dans les communes qui vivent cette pénurie. Cette pénurie qui nous transforme aujourd'hui, vous savez quoi? En colère. Parce que j'entends beaucoup d'entre vous, eh bien, justement, parler de cette galère qui se transforme aujourd'hui par cette colère. Je voudrais vous entendre, vous aussi, les taxis, les Uber, les infirmiers, les personnels soignants, 01 53 48 3000. Vous savez, dans les stations aujourd'hui, quand je parle de colère, c'est-à-dire qu'il y a d'énormes embrouilles, pour être évidemment, pour parler simplement, qui se transforment même en bagarre générale. On a ici et là, on récolte des vidéos qui sont diffusées dans nos WhatsApp, dans nos réseaux sociaux. J'en en reçois beaucoup. On va vous prendre 0153483000. Je voudrais vous diffuser cet extrait d'embrouille dans une station parisienne, hein, banlieue parisienne. Regardez, écoutez plutôt, écoutez. On sent bien qu'il y a une tension. Elle est palpable. On sent bien qu'il y a... Là, par exemple, la première vidéo, il y avait une embrouille. Bagarre générale. Parce que certains automobilistes s'octroient, vous savez quoi, tout simplement, de s'autoriser, de passer devant tout le monde et de s'imposer. C'est aussi ça, et au risque évidemment que ça se transforme en embrouille générale. 0153483000. Vous-même, si vous avez été témoin de, évidemment, d'une séquence de tension, d'une séquence où certains se sont bagarrés parce que l'autre a doublé l'autre et parce que, chère personne respecte personne, je vous attends au 0153483000, comme vous le faites tous les soirs d'ailleurs. Et vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. 0153483000. Tiens. Benamar de Paris. Bonjour Benamar.
Ça va.
Très bien, très très bien. Merci d'être avec nous Benamar. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Benamar?
Moi je suis chauffeur poids lourd.
C'est très bien.
Ouais. 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 Hier, j'ai pris 2h30. On compte 2h30, 3h. Quoi. On trouvait pour. En plus, il limitait à 50 euros.
Ah oui, c'est vrai qu'il limite. Il y a certains départements, qui limitaient. Alors vous avez eu de la chance. Certains limitent même moins que ça. Hein.
Ouais, mais c'est pas normal, attends, on travaille avec la voiture. Moi, je fais 20 km, 30 km, des fois. Ça dépend.
Oui. Vous êtes en train de nous dire que ça risque de vous pénaliser. Donc, ça veut dire plus de boulot.
Il y a le vélo, mais bon, j'ai un vélo, mais bon, il faut le réparer. Voilà. Non, c'est le vélo, solution, c'est le vélo. Électrique. Ouais. Ça, faudrait. De toute façon, c'est voulu, ça, c'est total. Je ne sais pas si c'est voulu, ça. Je savais très bien que le gouvernement, ça l'a pété, de toute façon. Ils ont raison de ne pas faire de grève, je comprends. Il y a que comme ça qu'ils se font entendre. Mais c'est pas grave.
Vous sentez qu'il y a de la tension, Benamar?
Ah oui, hier, il y avait la tension grave. Hein. Ça a failli se battre en là-bas.
Vous avez écouté la vidéo qu'on vient de diffuser? Il y a eu une bagarre une station en banlieue parisienne. Hein.
Ah oui, je viens de Paris, je sais. Paris, c'est bien, mais ça a failli se battre hier. Hein.
Quand vous dites ça a failli se battre, c'était quoi? C'était quelqu'un qui voulait doubler tout le monde?
Ouais, tout à fait, ouais. Il y en a beaucoup qui essaient de revenir, de tricher, quoi.
Oui, il y en a beaucoup. Moi, je sais, je l'ai vu.
Ouais, mais c'est pas normal, ça. Les gens se précipitent pour un gasoil, ils se battent pour un gasoil, c'est rien du tout, quoi. En plus, il a 2 euros, je sais pas combien, il a monté, comme par hasard.
Et il est monté, ouais. J'ai vu qu'il est monté. En plus, il est bien monté. 0153483000, je vous attends, chers amis auditeurs. Venez nous faire part, évidemment, de vos témoignages. Venez. Voilà. Et comment vous allez faire pour les jours à venir, mon cher Benamar?
Ça va, moi, j'ai plus la moitié, on va dire. Ça va. Je peux faire une
petite... Ah oui?
Ouais. Ça va, j'ai une voiture qui ne consomme pas beaucoup, quoi, ça va. Gasoil, mais bon. De toute façon, t'es obligé de ravitailler, là.
Bon. Vous soutenez qui? Vous soutenez les grévistes? Ou vous vous dites je les soutiens, mais j'ai des limites?
Moi, je comprends parce que tu passes de bénéfices de je sais pas combien de milliards. T'as vu le bénéfice qu'ils ont fait?
Oui.
C'est ça. Les ennemis, ils disent bénéfice, c'est moins augmenté, je sais pas combien. 58%.
Ça arrange beaucoup, hein. Certains cherchent le chaos, justement.
Ça arrange de qui? L'État, comme d'habitude, c'est le qui va payer.
Je suis pas là pour commenter, mais bon. Merci, Benamar, d'être intervenu.
C'est pire que peut-être.
À bientôt. 01 53 48 3000. Je veux vous entendre. Appelez-nous, le standard est ouvert. Je veux vous entendre, 0153483000, partout en France. Bonsoir, Morad.
Oui, bonsoir.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Morad?
Je suis chargé d'affaires en ascenseur.
Vous avez besoin de votre véhicule?
Tous les jours.
Tous les jours. Vous nous appelez de quelle ville?
Là, à l'heure actuelle, je suis sur Livry-Gargan.
Livry-Gargan. Comment vous le vivez tout ça là, entre les tensions, les potentielles bagarres, les galères, la colère, tout ça, vous dites quoi vous?
Bah, je le vis très mal, comme beaucoup de gens, malheureusement. Et je suis d'accord pour que les gens fassent grève, revendiquent certains droits, mais c'est pas normal qu'on soit pris en otage comme ça.
Ouais, c'est beaucoup, hein. Vous êtes beaucoup à le penser.
Ouais. Et d'autant plus que les forces de l'ordre, comme ils aiment bien dire, sont pas assez présentes devant les pompes à essence. Donc ça fout une pagaille pas possible sur la route, c'est encore pire.
Vous
ça,
imaginez, ça crée encore... Mémoire, vous imaginez ça crée la mobilisation des CRS et du personnel de la police, c'est impossible.
Mais ça, c'est leur problème.
Ouais.
Ça, c'est leur problème.
Ouais. Bah attendez. On a encore,
on est quand même livrés à nous-mêmes.
Vous faites bien d'en parler. On a un ancien commandant de la police sur le plateau. Je déconne pas. En plus, il doit débattre avec nous justement. Tiens, ouvrez-lui le micro, s'il vous plaît. C'est Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police. Morad propose de mettre de la police dans toutes les stations. Vous lui répondez quoi? Bonjour Morad, il est là.
Oui, bien sûr. Bien, bonsoir Morad et bonsoir à tous les auditeurs.
Bonsoir monsieur.
Voilà, oui, moi j'étais plutôt spécialisé en police judiciaire, hein, donc le service d'ordre, c'est pas trop mon boulot, mais enfin...
Qu'est-ce que vous dites, Morad? Il faut de la police partout.
Je vais lui répondre très simplement, arithmétiquement parlant, c'est tout simplement impossible. Il y a des centaines de milliers de pompes à essence en France. S'il fallait mettre un policier, ne serait-ce qu'un seul, devant chaque pompe à essence, il n'y aurait plus de policiers nulle part pour répondre aux appels 17, tout simplement. Donc on peut pas être à la fois au four et au moulin, la lutte anti-drogue, la lutte anti-tout ce que vous voulez, et faire la circulation dans les pompes. Vous savez, moi ce que je voudrais dire, là j'en profite deux secondes. Il faudrait aussi que certains arrêtent de remplir des jerrycans par dizaines dans les voitures particulières. Vous savez que
je suis d'accord avec vous.
Vous savez qu'il y a aussi un manque.
Certains remplissent dans des sacs de plastique, mais on aura tout vu.
Il y a un manque de civisme absolu, total. On a vu des scènes hallucinantes où des types essayaient de passer devant les
vidéos circulent.
Alors je dis pas que c'est la faute aux automobilistes qui eux subissent. Maintenant c'est vrai qu'il y a probablement quelqu'un qui a intérêt à ce que ce soit la pagaille et le foutoir partout pour décrédibiliser un mouvement social. Faut pas l'exclure. Voilà, il y a aussi il y a aussi tout simplement une demande de répartition des richesses. Total a fait plusieurs milliards de bénéfices cette année qu'ils ont redistribué en grande partie à leurs actionnaires, en oubliant au passage leurs agents. Donc il y a probablement un fond de colère légitime dans ce mouvement. Maintenant, la colère des usagers, elle est tout à fait compréhensible. C'est absolument anormal que le gouvernement s'est emparé de ce problème.
Ouais. Vous entendez?
J'entends bien. Monsieur a raison dans ce qu'il dit. C'est vrai qu'on peut pas mettre un policier devant chaque pompe, mais le désordre qu'il y a aujourd'hui devant chaque pompe, comment on le gère? Des bagarres, ça fait des tensions pour rien du tout.
Oui, c'est vrai, j'ai vu ça la semaine dernière. Il y en a un qui s'est pris un coup de poignard.
Oui, c'est honteux. C'est grave d'en arriver là pour un litre d'essence à coup de poignard. On va, on n'arrête pas.
On va au chaos.
Voilà.
Certains. Ouais,
on va au chaos.
Merci Morad. Merci Morad d'être intervenu.
Je vous en prie. Merci, bonne soirée à tous.
01, bonne soirée également. 01 53 48 3000, le standard est ouvert, je vous attends. Venez nous faire part évidemment de ce que vous vivez. Justement, on parle de pénurie, on parle d'essence, on parle de galère, on parle de colère, on parle de tension, on parle voire aussi de bagarre. Miloud. Bonsoir Miloud.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville du 94?
Chevet-la-Rue.
Et vous faites quoi dans la vie, mon cher Miloud?
Moi, je travaille bagage pour l'Algérie.
Oui.
Et en fin de compte, le problème de l'essence, c'est pas d'aujourd'hui. Le problème, c'est de l'État. Elle n'a pas organisé.
Oui.
Si elle a préparé ce problème en avance, on n'arrive pas là. Moi, j'ai dormi dehors avant-hier, toute l'année, toute la nuit à Creux, pour que le matin, je mets le plein.
J'ai entendu ça. J'ai entendu, comme vous, des gens se réveiller à 3h du matin, je déconne pas. 3h du matin, aller pointer dans une station pour pouvoir espérer d'avoir de l'essence, évidemment, dans les... c'est incroyable, quand même. Incroyable, Miloud.
Le problème, maintenant, est-ce que l'État a pu gérer la situation en avenir? L'avenir, on ne sait pas. Là, c'est juste octobre. Imaginez-vous, mois de novembre et décembre.
Attendez, Miloud. Il y a les vacances qui arrivent, là, la Toussaint.
Oui, c'est grave.
Ça va être un sacré...
C'est le bordel. C'est le chaos.
Merdier.
C'est le chaos. J'ai peur. Et j'aime bien que M. Macron, il se bouge pour que son peuple, il est bien. Mais à cause de gaz, à cause de pétrole...
Ce matin, il était en colère. Il a tapé du poing sur la table pour que cette session soit gérée.
Moi, j'aime bien mon pays, l'Algérie, qui l'aide un peu la France, parce qu'elle est dans la mer. Et c'est dur pour tout le monde.
Miloud, merci, Miloud.
Merci, bon après-midi, bon courage.
Merci à vous aussi. 01 53 48 3000, je vous attends. Venez nous parler, effectivement, de cette pénurie du carburant. On vous attend. 18h31, le face-à-face, c'est parti. En attendant vos appels, 01 53 48 3000, je vous attends. Le face-à-face, c'est parti. Ah, il n'y a pas de face-à-face. Bon, il n'y a pas de face-à-face. C'est pas grave, je continue de prendre les auditeurs. S'il n'y a pas de face-à-face, il n'y a pas de face-à-face. Les auditeurs, 01 53 48 3000. Il y a peut-être un problème de chez nous de jingle qui est mal lancé. 01 53 48 3000. L'idée de Morad, c'est pas possible, non, de mettre des policiers dans chaque station?
Je pense que vous avez, très cher Adil, la réponse en tête. C'est totalement impossible. Totalement impossible. Faut pas demander à ce que les policiers, c'est pas des gremlins, hein, ils peuvent pas se, même si on les trempe dans l'eau, ils vont pas se démultiplier pour en mettre partout. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein.
Absolument, effectivement. Ouais, ouais. Je crois qu'on a un problème de micro. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas allumé, mais peut-être que je me trompe. Hein. 01 53 48 3000. On va accueillir, tiens, justement, Jourdain qui nous appelle du 95. Jourdain.
Oui, c'est bien ça.
Ouais. Jourdain, vous nous appelez de quelle ville?
Villiers-le-Bel.
Villiers-le-Bel.
Oui.
Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jourdain?
Taxi.
Taxi. Ah, ça m'intéresse. Comment vous faites? Ça, c'est intéressant.
Je galère, en fait. Je galère comme tout le monde. Je fais plusieurs tours de station à la recherche d'une station disponible pour pouvoir trouver du gasoil. Et j'en suis tombé sur une. Et comme un peu tout le monde, il y en a qui doublent, il y en a qui jouent le feu, malheureusement.
Ouais. C'est terrible, hein, quand même, d'en arriver là. Hein.
Ah non, c'est terrible. Après, il ne faut pas... J'entends par-ci par-là, il ne faut pas stigmatiser spécialement les grévistes, encore une fois. Moi, ça me met en difficulté, ça me gave, moque mon carburant.
Oui.
Mais j'apporte tout un soutien aux grévistes, ils ont raison de défendre leur intérêt.
Oui.
On est là, c'est clair qu'on est pris entre deux étaux, mais ils ont parfaitement raison de défendre leurs intérêts. Mmh. Et c'est pas à nous qui subissons cette crise.
Et donc, vous, comment vous organisez, justement, vous qui êtes taxi? Le taxi, on en a besoin dans notre quotidien.
J'en ai besoin dans mon quotidien. Donc, en fait, je limite mes courses. Il y a des courses que je refuse quand c'est des courses à longue distance parce que j'ai peur de ne pas revenir à ma base.
Bon. Eh bien, merci, Jourdain, d'être intervenu. Beaucoup d'appels, justement, au 01 53 48 3000. Et c'est comme ça tous les soirs. Hein. Merci de votre fidélité. Abdelkrim du 93.
Allô?
Oui, bonjour. Quelle ville du 93?
Ivry-Gargan.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Abdelkrim?
Je suis technicien dans le médical.
Technicien dans le médical. Welcome, bienvenue, mon cher Abdelkrim. On vous écoute. Comment vous la vivez, cette pénurie du carburant?
Bah, moi, je la vis plutôt bien, puisque je vous cache pas que moi, je fais comme tout le monde. Je fais la queue. Donc, moi, l'avantage que j'ai, c'est que je fais la queue pendant mes heures de travail. Donc, si je dois rester une heure et demie ou deux, c'est pas trop gênant. Enfin, c'est pas trop gênant parce que je suis payé pendant que je fais la queue, si vous préférez.
Ouais,
mais
ouais,
ça reste gênant dans la mesure où j'ai pas le temps de travailler.
C'est jamais agréable de faire la queue pendant des heures. Rassurez-moi, Abdelkrim.
Absolument. Ouais. Non, mais quand vous êtes en réserve, vous n'avez pas le choix.
Ouais.
Là où ça, je voulais intervenir, c'est lorsque. Alors, c'était un auditeur, je crois que c'était un policier, qui disait qu'on pouvait pas mettre un policier dans chaque station.
Bah, il vous écoute, il est là, il est sur le plateau. Hein. Jean-Pierre Colombier, s'il s'appelle.
Je suis absolument d'accord.
On lève le micro, s'il vous plaît, de Jean-Pierre. Jean-Pierre Colombiès. Alors, il vous écoute.
Bonsoir.
Je disais que j'étais absolument d'accord avec lui. Et ceux qui devraient faire la police, bah, c'est nous, les citoyens. Si on voit une personne qui, par exemple, double tout le monde, bah, à nous d'intervenir et lui dire, mon grand, c'est gentil, mais il y a 150 voitures derrière. Et bah, tu dégages. Et s'il y a 3, 4, 5, 6 personnes qui lui disent, à un moment donné, bon, bah, il va être obligé de faire machine arrière. Et je pense que c'est à nous de nous auto-gérer. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a, c'est qu'on laisse
C'est une bonne idée, Abdelkrim, ce qu'il suggère. Hein.
C'est une bonne idée, mais c'est
une bonne idée. Monsieur Jean-Pierre Colombiès, vous répondez quoi?
Oui, non, mais moi, je salue cette remarque
d'Abdelkrim.
D'Abdelkrim, cette remarque d'Abdelkrim qui est pleine de bon sens. Ce que je crains, c'est que justement, cette autorégulation, elle amène à des conflits directs. Parce que celui qui va se voir rappeler à l'ordre risque de ne pas le prendre avec la bonne humeur qu'on devrait attendre de lui. Et ça va déboucher sur des scènes auxquelles on assiste depuis le début de la crise.
Des scènes de chaos.
Des scènes de chaos, c'est pas ça le but du jeu.
Sauf que, non, mais vous avez absolument raison, sauf que s'il n'y a qu'une personne qui va, effectivement, on va avoir une scène du chaos, mais si on est 10, 15 derrière, à dire, mon coco, t'es gentil, mais on est nombreux là, on n'est pas, non, mais pas tout seul.
Je suis d'accord, juste une
petite. Si on est 10 contre une personne, peut-être qu'il va réfléchir à deux fois.
Il faut être malgré tout assez prudent, parce que des fois, vous savez très bien, au volant, il y a des fous furieux, et si vous êtes quelques-uns à intervenir, ben, filmez-le. Déjà, filmez-le, parce que ce sera, je le souhaite pas, mais une preuve si ça dégénère contre cette personne.
Il a raison, Jean-Pierre Colombiès, notre ancien commandant de la police. Effectivement, vous dégainez votre portable, vous le filmez, en cas où ça dégénère. Voilà.
À un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités en tant que citoyen. Il faut qu'on prenne. Il y a du
style. Abdelkrim, je suis mille fois d'accord avec vous, vous avez raison. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est tout ça, c'est civique. Finalement.
Oui, c'est civique, oui.
C'est civique. Merci Abdelkrim. Très bonne idée. Merci Abdelkrim. Jamila de Marseille, je pense. C'est chez vous, ça.
Oui.
Eh bien, on la prend tout de suite après. La pause. Jamila, reste avec moi. Omar aussi. Moustapha. Plein d'appels. 0153 48 3000. À tout de suite. Ne bougez pas, reste avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et il est 18h44, si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, c'est le standard qui explose dans tous les sens. 0153 48 3000 avant de retrouver nos débatteurs influenceurs. Jingle, les auditeurs ont la parole. C'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et je vais accueillir Omar du 95. Quelle ville, Omar du 95? Bonsoir, Omar.
Oui, bonsoir, Adil.
Bonsoir et bienvenue. Quelle ville du 95?
Moi, je suis à Gonesse.
Gonesse, vous pouvez parler proche de votre portable parce que vous êtes très très loin, mon cher Omar. Hein. Sans le haut-parleur, parce que on aimerait quand même que le son soit audible. Hein.
Je crois que tu
on essaie de vous récupérer. Moustapha, tiens, Jamila, vous avez vu quel accueil, Jamila? Ah, c'est beau.
Magnifique. On a été coupé, je suis désolée, on a été coupé ce soir, nous, ça.
Vous avez un compatriote marseillais, notre ancien commandant de la police, Jean-Pierre Colombiès, qui est chez vous.
Bonsoir, Jamila. Je suis de Marseille, bonsoir, je suis d'Aix-en-Provence, moi.
Alors, on vous écoute alors, cette histoire de pénurie de carburant.
Eh bien, écoutez, hier soir, j'ai fini de travailler à 20h30, j'ai tourné jusqu'à 22h pour trouver du carburant, nada. Et ce matin, je me suis levée à 5h30, j'ai fait le tour et j'en ai trouvé, j'ai fait vomir ma voiture. Tellement j'en ai mis.
J'ai fait vomir ma voiture. Vous avez trouvé une station quand même ouverte avec de l'essence quand même, vous avez eu de la chance. Hein.
Ben, il ne restait que du gasoil et j'ai trouvé d'autres stations où il n'y avait plus de gasoil.
Ouais.
Très compliqué. Alors là, par contre, elle est pleine, je suis tranquille. Je peux dormir tranquille parce que c'est angoissant.
Comment? Attendez, vous avez dit quoi?
Je peux dormir tranquille.
Vous pouvez dormir tranquille.
Eh ben oui, c'est un peu angoissant la situation.
Ouais. Rappelez-nous, vous faites quoi dans la vie, Jamila?
Autant entrepreneur dans le nettoyage.
Ah voilà, c'est ça, vous m'avez dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon.
Je vous l'avais dit il y a quelques jours.
Bon. Vous avez vécu des scènes de tension dans les différentes stations?
Non. Quand il y a trop de monde, que ça déborde sur les voies rapides, je ne rentre pas parce que ça va partir en sucette. Alors j'ai pas envie.
Vous avez bien raison.
Et moi, je Jamila,
courage à vous, hein. Courage.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Bonne soirée, très bientôt. Le face-à-face, allez. Ah oui, je devais reprendre Moustapha et promis, je m'attaque à vous. Moustapha, bonjour Moustapha.
Bonjour, vous m'entendez?
Très bien, quelle ville du 95, mon cher Moustapha?
D'Argenteuil.
Argenteuil, pas très loin, effectivement, en région parisienne.
On n'est pas loin.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Moustapha?
La recherche d'emploi actuellement. Hein.
Oui. Qu'est-ce que vous... tenez, lancez un message. Qu'est-ce que vous recherchez dans quoi? Vous recherchez dans quoi?
Un peu de tout, peu importe.
Peu importe.
Moi, peu importe.
Bon, bah, écoutez, le message est lancé. Comment vous faites alors avec cette histoire de carburant?
En fait, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, il faut qu'on appelle au civisme, en fait, pour être responsable. On afflue tous au niveau des pompes à essence. Il se passe, ça crée des tensions, des bagarres. Et en fait, la plupart des personnes ont du gasoil dans leur voiture.
C'est vrai ce que vous dites.
Ouais, bah, j'ai parlé avec un gérant d'une pompe à essence. Ils m'ont dit la plupart du temps, ils ont du gasoil, ils viennent en rajouter parce qu'ils ont peur de se retrouver en rade.
C'est ça.
Mais ce qui se passe après, il faut vraiment être responsable parce que en fait, nous les Français, chaque fois qu'il y a un truc qui nous touche, on afflue, on panique. Ça veut dire, on va dire demain il y a pas d'huile, on va se battre pour de l'huile. Demain il y a pas de farine, on va se battre pour de la farine. Là, on parle d'essence, il y a pas de pénurie, c'est une grève. Et
ça crée de la pénurie.
Ça crée de la pénurie,
ça crée des mouvements de panique.
C'est ça. Et ben, si les gens faisaient leur vie normalement, quand il y a du gasoil, il manque du gasoil, ils vont à la pompe normalement. Et on parle de grève, ça y est, tout le monde a fait. Mmh. On parle demain, vous allez dire, il va manquer du shampoing, tout le monde va sauter sur le shampoing.
Ouais. Merci, voilà. Vous avez raison de rappeler les règles de civisme.
Moi, j'appelle au civisme. Si les gens écoutent, franchement, ils sont irresponsables. Faites la queue normalement. Prenez ce qu'il y a à prendre, même si c'est que 30 euros. Et voilà, faut partager.
Vous avez raison de lancer ce message.
De rentrer dans des conflits.
Et vous avez raison de lancer ce message. Vous avez raison. Merci, mon cher Mustapha.
Bonjour, Harry.
Exactement.
Allez,
le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face,
j'accueille justement, j'en profite pour vous faire un tour de table concernant cette pénurie du carburant. Vous savez que le gouvernement a saisi certaines raffineries, réquisition des raffineries. J'accueille justement nos débatteurs influenceurs. Notre ancien commandant de la police, aujourd'hui les metteurs en scène, comédien. Bonjour comédien. Jean-Pierre Colombiès.
Bonsoir Adil, comédien, ça ira déjà bien.
Comédien, effectivement, c'est pas mal.
Metteur en scène, c'est un métier, c'est pas le mien.
Un élu de la région, justement, il est avec nous, c'est Philippe Nadji Bouriaki. Bonsoir.
Bonsoir.
Notre président de l'association de la coopération franco-tunisienne, monsieur Rayed Chaibi, bonsoir.
Bonsoir.
Messieurs, un tour de table sur l'histoire des carburants. Le gouvernement qui veut réquisitionner les raffineries, vont-il y arriver et comment? Et est-ce que ça ne risque pas justement de créer un embrasement? Alors, Jean-Pierre Colombiès.
Très rapidement, parce qu'on a eu quand même pas mal d'auditeurs sur le sujet. Pour moi, c'est un aveu d'échec. À partir du moment où on veut réquisitionner, ça veut dire qu'on court-circuite une négociation partenariale entre des syndicats et une direction. Pour moi, je pense que c'est pas du tout la bonne solution. Ça veut dire qu'on a laissé pourrir la situation, c'est-à-dire qu'on a laissé monter des tensions. Ben non, il aurait fallu anticiper et inciter la direction Total, déjà d'une part, et mettre tout le monde autour de la table, parce qu'on n'est vraiment pas capable de faire, mais ça fait 5 ans que ça dure.
Philippe Nadjiboy, à qui vous dites quoi?
Moi, je dis que ils auraient pu, dans un premier temps, commencer à ouvrir les stocks stratégiques, puisqu'on a pour 3 mois d'essence, en partant en compte que tous les véhicules sont à sec. Donc, en vérité, on a pour 5-6 mois d'essence sans aucun problème. Le seul souci, c'est que la peur du manque, t'as des gens, moi, je les ai vus faire le plein pour 10 euros.
Non, c'est vrai.
Donc, le problème, il est là. Et lorsque t'as cet engouement où tout le monde y va, et siphonne,
ça crée l'embouteillage,
ça crée le manque, ça crée la pénurie. Donc, les gens se disent, bon, il va plus y en avoir, donc il faut qu'on y aille. Je peux vous rassurer qu'on ne manquera pas d'essence.
Je parle des automobilistes, certains sont, mais c'est l'acheminement.
Dans un circuit normal, quand les gens, il y a de l'essence, en fait, c'est normal. Sauf que si on vide toutes les cuves en même temps, bah, le temps de les remplir, t'en remplis une, elle est aussitôt vide. Donc, le souci, il est là. Et puis, t'as des gens qui tournent, qui gaspillent pas mal d'essence pour pouvoir en mettre. Donc, le truc, c'est calmez-vous réellement. Adaptez vos modes de transport aussi. Regarde, moi, tout à l'heure, j'ai fait 45 minutes de vélo pour venir ici. Je vais en avoir 45.
Les auditeurs, on appelle au civisme.
Mais, oui, bien sûr, évidemment, au civisme. Mais parce qu'on n'est pas des sauvages, on n'est pas des barbares. Et puis, après, il y a quand même les journalistes, s'ils n'avaient pas allumé le feu en disant, la semaine dernière, il y avait trois pompes. Et c'est là où est parti l'embrasement. Réellement. Donc, là, je vous assure que les raffineries continuent à tourner. Sauf qu'elles produisent moins que traditionnellement, mais il y a suffisamment d'essence pour pouvoir tenir pour tout le monde. Le seul truc, c'est que lorsque tu as ce fameux goulot d'étranglement, essentiellement en région parisienne, tu te retrouves avec des stations à sec qui créent la peur et qui fait qu'il y a des gens qui vont mettre le plein parce qu'ils n'ont que 2 barres de moins.
Rayed Chaibi,
je suis à peu près d'accord avec ce qui a été dit, à savoir que je pense qu'on n'aurait pas dû laisser cette situation en arriver là. Je pense qu'il aurait dû avoir une incitation à ce qui est autour de la table des négociations Total et puis l'ensemble des syndicats. Appeler au civisme aussi, c'est très important, puisque on crée par la panique, malheureusement, on crée ces pénuries-là. Mais la troisième chose, je ne peux pas également ne pas penser que pour moi, c'est quasiment une prise d'otage que font actuellement les syndicats, puisque on se rend pas compte des dommages collatéraux d'un tel blocage et des conséquences que ça a sur tout à chacun. On a entendu vos auditeurs, je pense que c'est suffisamment parlant, mais je pense notamment à ceux qui sont dans l'obligation, tu parlais tout à l'heure Philippe, d'utiliser des moyens de substitution, mais quand tu es infirmière, quand tu travailles pompier ou infirmier, etc., ou ambulancier, c'est très compliqué. Donc je pense qu'une minorité ne se rend même pas compte des dommages collatéraux qu'elle est en train de faire, Philippe, mais néanmoins je regrette qu'on ait laissé cette situation quand même se détériorer.
En même temps, moi c'est pas pour dédouaner les salariés, mais quand t'as Total qui fait plus 17 milliards de bénéfices après impôts, que le président s'augmente...
Léger les impôts,
le président s'augmente de 52%, c'est une gifle violente que t'envoies à ceux qui sont en première ligne, qui respirent du carburant toute la journée, qui sont pas sûrs d'arriver jusqu'à la retraite. Et donc, ils ont montré...
Oui, mais j'ai vu des articles passés, alors je sais pas si c'est une fake news, paraît-il que, justement, ils touchent 5000 euros.
C'est faux.
Alors, est-ce que c'est légitime pour eux de faire grève?
Ce n'est pas faux. Si tu fais la moyenne de tous les salariés et de tous les salaires, ça fait 4000 euros. Mais t'as des types qui gagnent 2000 et t'en as qui gagnent 6 millions, comme le PDG Total. Ouais. Donc quand tu mélanges tout ça et que tu fais une division classique...
On peut dire ce qu'on veut aux chiffres.
tant d'argent, tant de salariés, donc ça fait une moyenne de 4000. C'est sûr que c'est énorme.
S'ils veulent faire mal aux actionnaires notamment, ou... au grand patron de Total, ils n'ont qu'à rendre gratuit les stations, les pompes, et puis c'est tout.
Voilà. Allez, 18h54, messieurs, nous nous retrouvons dans une poignée de minutes, on marque la pause, et on se retrouve tout de suite après, justement pour parler d'Edouard Philippe, du Covid-19 et de la Cour de justice. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkas.
Les Informés avec Raïd Chehibi, Les Informés avec Philippe Nadjibouriaki et enfin Les Informés avec Jean-Pierre Colombien. C'est parti, le face-à-face continue tout de suite maintenant et plus que jamais. 18h57.
Les Informés, le face-à-face.
Édouard Philippe, prochainement convoqué à la Cour de justice pour sa gestion de la crise du Covid-19, les magistrats envisagent la mise en examen de l'ancien Premier ministre. Messieurs, à tour de table, justement, Jean-Pierre Colombiès.
Alors, très vite.
Comment doit-on le comprendre ?
Il faut le comprendre tout à fait légitimement. Pour ceux que ça surprenne, moi, je les renvoie à la déclaration d'Agnès Buzyn quand elle a perdu les élections municipales de Paris. Ça a été la première à dire, à jeter un peu son venin sur la table lors de l'interview qu'elle a accordée au Monde, en disant que le gouvernement savait qu'il y avait une crise grave qui allait s'annoncer, que tout le monde le savait, tout le monde avait conscience, mais que tout le monde a jeté un voile pudique là-dessus, en ne réabandonnant pas les stocks de masques, notamment en prenant pas les mesures tout de suite les plus appropriées. Donc en résumé, tout le monde savait et on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour juguler cette crise. C'est pas moi qui le dis, c'est Agnès Buzyn. Agnès Buzyn est au gouvernement d'Edouard Philippe. Donc,
ancien ministre de la Santé.
Absolument, et donc sous l'autorité de monsieur Édouard Philippe, donc qu'il en rende compte. Moi, je suis désolé, certains vont dire « Ah oui, mais ça va dégoûter les politiques de faire de la politique ». Non, ça va les responsabiliser, éviter d'avoir eu cette valse de mensonges permanents qu'on a eu pendant plusieurs mois, qui, je suis désolé, a rajouté du stress au stress. Mais on a l'impression, je fais vite une parenthèse très courte, par rapport à la crise de l'essence, on a l'impression véritablement, en tout cas c'est mon sentiment, que ce gouvernement aime la tension sociale. Ils aiment ça, ils aiment quand ça coince, quand ça clash. La preuve aujourd'hui, on en parle peu dans les médias, c'est bien dommage, il y a des milliers de flics dans la rue aujourd'hui,
d'OPJ
notamment, pour manifester, mais pas que, pour manifester contre la réforme de la police judiciaire, contre laquelle tout le monde s'est levé. Magistrats, avocats, beaucoup d'avocats se sont levés contre cette réforme. L'ensemble des policiers de la PJ, je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas un relais suffisant des grandes autorités, ce qu'on appelle les grands flics de la PJ, pour dire, attention, il y a danger pour la démocratie notamment. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est un autre débat. Mais voilà, pour moi, que ce monsieur Édouard Philippe, ancien Premier ministre, soit convoqué, ça me paraît tout à fait normal, compte tenu des déclarations même de sa ministre de la Santé.
Attention, hein, précisons quand même une information quand même concernant cette convocation, c'est après des plaintes, plusieurs plaintes d'associations victimes de la pandémie, justement.
Et soutenues par...
Elles estiment justement, ces associations, que le gouvernement avait réagi trop tard à la diffusion du virus. Philippe Nadjibouriaki.
Oui, ça c'est juste, mais les ministres en fonction ou anciens ministres sont jugés par leur pair. Donc moi je ne me fais pas trop d'illusions sur ce qui...
Il y a une parité dans la Cour de justice.
Ouais,
il y a une parité, quand même.
D'accord.
Mais le geste est symbolique.
Non, mais ouais, le geste peut être symbolique. Fabius, on l'a vu avec le sens.
Responsable, mais pas coupable.
Voilà, c'est ça, Christine Lagarde, de mémoire, dans l'affaire consortium avec Bernard Tapie. Mmh. Voilà, c'est ça, responsable, mais pas coupable. Bah non, je veux du coupable, moi, je veux que les gens rendent des comptes. Parce qu'on parle de gens qui sont morts. Morts.
Oui, oui, tout à fait.
Par l'incompétence de gens qui nous disent non, ne vous inquiétez pas, petite grippette, et de toute façon.
Moi, je dirais pas de l'incompétence, du cynisme.
Non,
c'est pas eu qu'Edouard Philippe qui a menti. Hein.
Non, parce qu'en vérité. Il...
Non, mais Edouard Philippe, il est convoqué en tant que premier ministre. Non, mais... Après lui, il a... Oui, non, mais... il a engagé le gouvernement.
Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui sont en commande ont des comptes à rendre. Mais ils ont été aussi conseillés. Par qui ils ont été conseillés? Ces gens-là ont des comptes à rendre. C'est-à-dire que les gens qui les ont conseillés, qui leur ont dit faut dire ceci ou dire ça, les scientifiques, etc. Moi, je veux qu'il y ait toute la transparence là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, même si lui, il prend. Pour tout le monde, c'est pas normal. Ouais. Il faut dire tout le monde qui prenne chacun sa part de responsabilité.
Red JB.
J'ai un petit peu du mal à entendre ce qui est en train de se dire parce que, déjà, faut pas trop hystériser le débat. On va voir ce que la justice va décider. Il aura l'occasion de s'expliquer. Je pense qu'il a suffisamment d'éléments pour montrer que cette situation était quand même anormale et assez exceptionnelle. Deux observations sans vouloir rentrer trop dans les détails. La première, c'est que malgré tout, même si effectivement le Covid a fait beaucoup de morts et on peut que le regretter, que ce soit en France ou partout ailleurs, malgré tout, on s'en sort pas trop mal, on s'en est pas trop mal sorti, malgré tout. C'est pas parfait.
Ouais, parce que dans ce studio, beaucoup ont considéré que la gestion du Covid.
La première chose. La deuxième,
vous parlez d'Agnès Buzyn, elle est mise en examen.
La deuxième chose qui pour moi aussi est très importante, c'est que celles et ceux qui critiquent la gestion de la pandémie, de celles et ceux qui étaient aux manettes, j'aurais bien aimé qu'il soit ne serait-ce que 10 minutes à la place de celles et ceux qui ont eu à gérer cette crise d'une exceptionnelle gravité dont on ne connaissait ni le tenant, ni les aboutissants. Et le Premier ministre de l'époque lui-même le disait. Excuse-moi. Je vais jusqu'au bout.
On va installer le débat. Allez-y.
Lui-même avait dit, y compris devant la représentation nationale, y compris en commission, y compris devant les parlementaires durant les différents moments où il a eu l'occasion à s'exprimer, que lui-même était amené parfois à prendre entre une mauvaise décision et une très mauvaise décision sur la base d'éléments qui pouvaient être parfois erronés, parfois graves, parfois très graves. Il n'avait qu'à choisir entre des mauvaises décisions sur une situation épidémique et sanitaire qui était inconnue et qui était gravissime et exceptionnelle.
Alors, on fait un tour de table.
Je pense que il faut laisser faire les choses. Il aura l'occasion de s'exprimer. Puis
alors, Jean-Pierre Colombiès et ensuite Philippe Ladjiboyeki. Jean-Pierre Colombiès.
Qu'on ne savait pas, je ne suis pas d'accord du tout. Il y avait des alertes gravissimes qui venaient de Chine, ça c'est le premier point. Mais avant même que l'épidémie se déclenche, il y avait déjà des publications sur le risque qu'une pandémie gravissime, à un moment donné, ne débarque pas simplement en France, mais effectivement sur l'ensemble de la planète, ça c'est clair. Mais quand on sait ça, eh ben on s'intéresse, tant soit peu, c'est le métier de la Direction Générale de la Santé Publique, hein, c'est eux, c'est leur métier ça. On s'intéresse au stock de masques, par exemple, tout simplement.
Oui.
Et on ne ment pas aux gens en leur disant ne mettez pas de masque, ça sert à rien. Alors qu'aujourd'hui, pas plus tard qu'hier plutôt, excusez-moi, j'ai entendu une spécialiste en virologie qui disait mais la première protection, la première, avant même le vaccin, avant même quelques vaccins que ce soit, c'est un masque. Tout simplement. Ce que font les Asiatiques depuis des générations. D'accord ? Dès qu'il y a un nuage de poussière quelque part, les Asiatiques font quoi ? Leur premier réflexe, c'est de mettre un masque.
Mais nous ne sommes pas les Asiatiques.
Et donc, ouais, non, mais là, faut pas dire ça.
Bah,
donc,
quand on malheureusement.
Non, mais non, faut pas dire ça. Faut pas dire aux gens, n'en mettez pas. Faut pas dire comme Jérôme Salomon.
C'est pas ce que je suis en train de dire.
Jérôme Salomon, directeur de la santé publique, a dit sur une chaîne de télé, je l'ai vu, on m'a le pas raconté,
oui,
que d'assister à un match de foot à l'époque, ça ne risquait rien parce que les supporters ne se parlaient pas. On me l'a pas raconté, je l'ai entendu dire. Donc, ce monsieur est, lui aussi, est coupable. De mensonge.
Non, mais je suis d'accord avec ton analyse. C'est justement ce que tu poses. C'est celui-là le problème. C'est que quand tu es chef du gouvernement, quand tu es Premier ministre et que tu as information sur contre-information qui succède à d'autres contre-informations, comment tu peux prendre ne serait-ce qu'une bonne décision? C'est impossible. Tu es obligé de prendre une décision qui parfois peut être mauvaise. Certainement. Nul n'est infaillible.
Justement,
je ne connais pas un chef d'État ou un chef du gouvernement de le monde qui a pu prendre la bonne décision.
C'est pour ça que je mesurais mes propos en disant que c'est pas Édouard Philippe de ramasser. C'est pas Agnès Buzyn de ramasser. Eux n'ont été que les porte-voix, que les colibris de celles et ceux qui leur ont donné des informations. Moi, je ne veux pas qu'Édouard Philippe mange pour des gens qui ont été payés par les deniers publics pour dire des informations erronées. Mais il aurait été honorable de dire
ou mentir.
Alors, ça dépend. Est-ce que tu mens parce qu'on t'a donné des fausses informations ou est-ce que tu mens parce que tu connais la vérité et tu ne veux pas dire la vérité? C'est deux choses différentes.
Agnès Buzyn a clairement dit qu'on avait menti volontairement.
Je suis en train de dire la chose suivante. Posons les choses clairement, que tout le monde soit sur le banc des prévenus, des entendus, des ce que vous voulez. Moi, je n'utilise pas le mot accusé parce que il y en a juste certains qui sont ciblés parce qu'ils sont à la tête de la pyramide. Mais il y a une base à la pyramide. Ouais, c'est pas la tête.
Il y a toute une administration.
Non, mais je parle d'une pyramide. Je suis en train de faire un dessin. Ceux qui sont en radio, ils comprennent très bien ce qu'on est en train de dire. La chose qui est importante, et je pense que moi j'ai été peut-être trop prévoyant, mais quand il y a eu la grippe H1N1, immédiatement, on a commandé pour 1 milliard de vaccins. Bah, je préfère qu'on commande pour 1 milliard de vaccins qui partent à la poubelle que qu'on se retrouve en carotte. Mais on avait commandé des masques. Mais c'est surtout le suivi des masques. On se retrouve avec des stocks de masques qui étaient pourris et qu'il fallait virer à la poubelle. Et ça, c'est super grave. Il y a quelqu'un qui commande et qui ne pense pas à un moment donné
qui n'a pas géré les stocks.
Enfin, on est chez les fous. On a vu des infirmières mettre des sacs poubelles. Enfin, on est vraiment chez les fous. Et c'est ça qui est le plus gênant. Et puis, dernier point, effectivement, il y avait ce qui se passe en Chine avec des informations parcellaires parce qu'ils contenaient tout. Mais quand tu vois que les Chinois construisent des hôpitaux en 10 jours, tu peux commencer à t'inquiéter. Mais surtout, on avait 3 semaines de décalage avec l'Italie. Et rappelle-toi comment les campagnes étaient violentes en Italie. Parce qu'on disait, ouais, mais vous avez des respirateurs, etc., vous ne nous donnez rien. Et ces 3 semaines, on ne les a pas mis à profit. Et ça, moi, je veux bien savoir qui est responsable de ça.
Messieurs, je regarde le temps, il est 19h06, il faut qu'on avance. Et je voudrais qu'on parle de cette grande marche contre la vie chère. Vous savez, c'est celle qu'a proposée Jean-Luc Mélenchon. La NUPES notamment, ils ont donné rendez-vous, il s'est acté. Mais en même temps, les syndicats, ils seront pas aux côtés forcément de Jean-Luc Mélenchon durant cette marche. Mais j'aimerais revenir aussi sur cette polémique concernant... Vous savez, ce tweet où il fait la comparaison de cette marche du 13 octobre à la Révolution et il se fait recadrer notamment par des ténors de la NUPES. Jean-Pierre Colombiès, ça vous fait sourire?
Ouais, ça me fait sourire parce qu'on a vraiment, c'est pas un sentiment. D'ailleurs, la NUPES est à la recherche d'une reconnaissance populaire, médiatique. Donc c'est le concours de la surenchère. Compare ça à 1789, moi je veux bien, bon, pourquoi pas. On pourrait aussi 1848, 1871, 1936, et j'en passe des meilleurs. Je ne sais pas ce que cherche Mélenchon à part se créer une stature d'homme d'État, de leader, de le nouveau Che peut-être de la nation française. J'en sais rien. Je vois un peu de ça hein, dans sa démarche. Le problème, c'est que l'outrance de ses propos le dessert totalement et que les syndicats peuvent pas emboîter le pas à une demande insurrectionnelle. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'aller rechercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. C'est 1789. On va chercher la famille royale à Versailles. On la ramène. On la met aux Tuileries. Puis après, on décapitera Louis XVI 3 ans plus tard. Il y a un manque de cohérence dans le propos de Mélenchon parce qu'il est tout le temps dans l'outrance. Donc je le suis pas, je comprends pas trop. Je sais pas où il va, mais si c'est le chaos qu'il cherche lui aussi, décidément, on est dans une nation.
C'est ce qu'on lui reproche. Certains parlent de chaos, justement. Ouais.
Quelque part, on a l'impression, mais il n'est pas le seul à vouloir ça. On a le sentiment que tout le monde cherche la confrontation dont il sortira peut-être quelque chose. Mais en général, les confrontations de ce genre-là débouchent rarement sur quelque chose de positif.
Philippe Nelgiboyaki.
Il va être le leader de...
Grand Maximo.
Grand Maximo, ouais.
Exactement,
j'allais
le dire. Tu peux enlever de la bouche.
Là, le souci, c'est que derrière, il y a des gens qui sont en situation de fragilité, qui peuvent tout à fait interpréter... Moi, quand j'ai vu ce mot-là, je me suis dit, bon, il faut aller chercher Macron et l'emmener sur la place publique. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Donc, c'est pas responsable de sa part. La colère est légitime. Il faut l'expliquer et l'exprimer dans les urnes. Nous sommes en démocratie. Ce qui s'est passé en 1789, ça a été l'abolition de la monarchie. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas l'abolition de la République. Ils demandent pas ça.
C'est plus tard. Hein. 89.
Oui, 92.
93. On abolit tout.
Mais non, mais quand on dit 89, c'est symbolique. C'est la prise de la Bastille. Donc la monarchie tombe à ce moment-là. Louis XVI se barre, etc. Il se fait toper plus loin. Donc
le symbole tombe.
C'est le symbole. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Pour faire tomber et changer un régime démocratique, il y a un truc qui s'appelle les urnes. Point. Et là, moi, je pense qu'il est en train d'alimenter le four de l'extrême droite.
Le populisme.
Qui continue comme ça. Qui continue comme ça.
Pourquoi vous dites qu'il continue comme ça?
Qu'il continue comme ça, et puis dans 5 ans, on aura Marine Le Pen et tous ses sbires au pouvoir.
Vous pensez que ça alimente?
Clairement. Alimenter la haine, la colère, la rage, la frustration vous emmène directement dans les bras de Marine Le Pen. Vous l'entendez? Elle dit rien, elle est là, elle attend. et à manger des cacahuètes.
C'est
pas sérieux.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qui se dit. On peut comprendre cette démarche d'organiser une telle journée pour, contre la vie chère parce que c'est une réalité. Mais le problème, c'est que il est en roue libre, hein, Mélenchon. Donc, oui. comme tu l'as dit, hein, il parle de la révolution. Demain, il parlera de Léon Blum ou de Jean Jaurès ou je ne sais qui d'autre. Mais bon, pour moi, c'est une simple volonté d'exister, puisque comme il n'est plus rien, donc il essaye simplement d'exister. Simplement, il démonétise une initiative par son outrance. Et effectivement, je suis d'accord avec Philippe. C'est, si vous voulez, on est aujourd'hui dans un climat de telle tension qu'il ne fait qu'envenimer les choses au point que ça commence, enfin ça a déjà débuté, mais que même ses partenaires de la NUPES commencent un petit peu à trouver ça un petit peu gros, et à mon avis ça ne va pas tenir longtemps, mais ça on l'avait déjà dit. Mais il est en roue libre et je ne sais même pas quoi dire d'autre, si ce n'est que je ne sais même pas si je ne sais pas s'il sert la cause en faisant ça.
Olivier Faure, j'ai pas compris. Philippe Nadjibouaké est déjà désolidarisé.
Oui. Je disais que dans ce climat un petit peu tendu, moi j'ai déjà vu des appels de gilets jaunes qui vont venir se mettre dans la manif, mais qui vont se mettre devant parce qu'ils veulent pas se mélanger avec les politiques. Il y a des appels de Black Bloc qui seront là. Ça peut vraiment très mal. Moi, je pense qu'elle n'ira pas jusqu'au bout, la manif. Hein. Je vous le dis clairement. Ils ne seront pas autant que ce qu'ils pensent déjà dans un premier temps.
Éviter de les faire sur le marché le 16.
Moi, j'éviterai Paris le 16. Ça, c'est une certitude. Ouais.
C'est ça ?
Oui, mais
à quoi peut-on s'attendre justement ? C'était ma dernière question. À quoi peut-on s'attendre justement ce 16 octobre ?
Mélenchon joue avec des allumettes à côté d'un baril de poudre.
Exactement. L'image parfaite.
Il est généralisé. Il n'y a pas. Alors, vous parlez des points d'essence. C'est révélateur d'une tension qui est permanente, qui est universelle. Il n'y a pas un secteur, a dit, on l'a souvent évoqué sur ce plateau, il n'y a pas un secteur social où ça va bien. La santé, c'est une catastrophe. La justice fonctionne mal. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas les moyens de fonctionner, pas assez de place, pas assez de fonctionnaires, des systèmes qui ne fonctionnent pas. Un mal-être profond dans la police nationale, qu'on le veuille ou pas, parce que ce n'est pas que des fachos dans la police, il y a aussi des républicains, tout simplement. Et des beurs aussi, il y en a beaucoup, des beurs.
Il y a des beurs fachos. Hein.
Oui, pourquoi pas, mais il y en a, bien sûr. C'est pas incompatible. Mais
ce qu'ils voulaient nous dire, c'est qu'il y a une vraie diversité dans la police.
Heureusement. Mais dans l'enseignement, ça craque de tous les côtés, part en sucette partout. Donc, je veux dire, ce mécontentement risque de synthétiser, risque d'y avoir un syncrétisme des mécontentements.
Ça va se cristalliser ?
C'est possible. Mais c'est tout à fait possible. Mais c'est même logique. N'oubliez pas, et je le répète, vous n'êtes pas d'accord quand je le dis, Macron est élu avec à peu près entre 15 et 20% de l'électorat des inscrits. Il n'a pas de légitimité populaire. Il est réélu parce qu'il y a eu un front anti-Marine Le Pen. Il faut en avoir conscience avec les voix du reste de la gauche. Donc, remettez les choses en perspective. Ce pouvoir, aujourd'hui, qui se targue d'être légitime, ne l'est pas. Donc, il faudrait qu'il se ressaisisse et qu'il arrête d'être dans la confrontation permanente.
Philippe Nadjibouaké, à quoi peut-on s'attendre, justement, durant cette marche ?
Non, moi je...
Est-ce qu'il va y avoir du monde ? Est-ce que ça va déraper ?
Du monde, non. Je pense qu'ils seront entre 30 et 50 000 grand max. Et donc, ça sera loin d'être un raz-de-marée comme on a pu le connaître sur d'autres manifs. Je pense que la tension qui est là, qui est palpable de part et d'autre, et y compris chez les forces de l'ordre, ça va être une poudrière. Et moi, je couvre les événements en tant que reporter urbain. Celui-là, je ne vais pas le couvrir parce que je sais que ça va être ça risque dégénérer et on risque de prendre des coups de part et d'autre, hein, et y compris des manifestants, y compris de la police. Donc moi, je couvre pas, quoi. Je vais regarder gentiment ça à la télé et encore. Non, je vais faire d'autres choses. J'ai plein de choses à faire dimanche.
Ouais. Ça va être le premier test de Laurent Nunez. Ça va être le premier test de Laurent Nunez.
Bon. Je m'excuse, hein, Laurent Nunez, il a déjà été adjoint d'un certain monsieur Castaner. Il connaît la chanson, il connaît la musique. C'est un faux genre.
Non, mais c'est
pas une noix blanche, monsieur Nunez. Il est souriant, il est affable, il passe un petit peu pour un modéré par rapport aux autres, mais enfin, je n'ai pas entendu s'élever à l'époque contre la dégénérescence des manifestations qui ont duré 8 mois.
Bah, justement, c'est pour ça que je dis que ça va être un premier test pour lui en tant que.
Ah oui, on va voir comment
il va le gérer.
Je suis pas, il n'y a pas de blanc-seing dans l'histoire.
Hein. Ah oui, mais c'est pour ça que je dis, on va voir comment il va gérer la. Cette marche qui effectivement s'annonce très tendue.
Et je vais dire pourquoi. Bon, je sens une tension de la part de la police. Hier, nous, on a manifesté, avec l'Union des écrivains de France devant le centre culturel russe Quai Branly. Et donc, les forces de l'ordre étaient là. Il a manqué 2 heures pour la signature, pour l'autorisation. On sait très bien que les manifs des Ukrainiens, t'as 80% de femmes et que c'est plutôt, enfin, c'est que pacifique, hormis quelques slogans Poutine terroriste. Voilà. Il y avait un dispositif de sécurité impressionnant. Et au début, on nous a fait 2 sommations d'évacuer des lieux. On a dit, ça va pas se passer comme ça. On va rester. Donc, on a négocié. Ils nous ont laissé jusqu'à 19h30. On est parti comme prévu, etc. propre. Mais la brave est venue en renfort.
19h15, on marque la dernière pause pub. Et on se retrouve pour la dernière ligne droite avec vous-même. Allez, c'est parti tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
19h22, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, Les Informés, c'est avec Raïd Chaibi, avec Philippe Nadjibouayaki, mais également avec Jean-Pierre Colombiès. Messieurs, un sujet, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine avec des nouvelles frappes en Ukraine, mais également Paris, qui a décidé de renforcer sa présence militaire en Roumanie avec des chars et blindés, notamment quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine. Il y a encore eu, encore quelques heures, des nouvelles frappes, donc partout en Ukraine. Mais sur un tour de table, Jean-Pierre Colombiès, à la fois ces frappes, qu'est-ce que cherche-t-il Vladimir Poutine? Et de l'autre, Emmanuel Macron, qui a décidé de renforcer sa présence militaire en Roumanie.
Ben écoute, Adil,
Jean-Pierre Colombès.
Ouais, je demande surtout qui cherche quoi. Emmanuel Macron s'est targué à plusieurs reprises de dire qu'il ne voulait pas être un belligérant de ce conflit et qu'on avait livré que du matériel de défense. Hein. Cela dit, un canon, c'est déjà pas spécialement de la défense. On a livré des canons de dernière génération. Qui tue quand même un canon, c'est fait pour ça, c'est fait pour tuer. Mais quand je vois les annonces qui sont faites au fur et à mesure, renforcement de la présence militaire française en Roumanie, en Estonie et dans un autre pays aussi, je me demande que cherche notre président. Il veut quoi? Il veut un conflit direct? Il veut un incident direct avec du matériel russe, des militaires russes? Parce que là, tout à coup, on passerait du rôle, je dirais, de soutien logistique à l'Ukraine comme un belligérant. Oui.
Mais oui, c'est l'OTAN.
Eh bien, c'est bien le problème, Adil.
Bah, là, on parle de l'OTAN, là.
Oui, mais l'OTAN, ce sont les États-Unis. Il ne faut jamais le perdre.
Bon, Philippe Nadjibouayaki. Faisons un tour de table. Philippe Nadjibouayaki. Philippe
Nadjibouayaki. L'OTAN, effectivement, est sous commandement américain, ça, c'est un fait. Mais c'est 33 pays, y compris la Turquie d'ailleurs. Ça serait très drôle si, non, pas drôle, excusez-moi, je me suis mal exprimé, mais si ça bougeait, que ferait la Turquie dans cette histoire? La Roumanie fait partie de l'OTAN, il est normal qu'on aille renforcer nos troupes, et je signale qu'on a déjà des soldats sur place.
Sur place, oui.
En Estonie, c'est tout à fait normal, et à un moment donné, ça va, quoi. Il va pas dicter sa loi à la terre entière. Moi, je suis très fier de voir, parce que quand c'est les pays musulmans, la Libye, la Syrie, on y va sans problème et personne ne dit rien. Là, quand c'est un petit peu la Russie qui fait la même chose qu'on a condamné, qu'on a combattu, on est tous un petit peu frileux. Ben, moi, non, là, je suis très fier.
Et quand les États-Unis, un pays qui n'est pas belligérant, c'est quoi?
Comment ça?
Par exemple, quand les États-Unis déclarent la guerre à l'Irak, par exemple, là, sur la base d'un mensonge d'État, c'est normal?
Quand les États-Unis
alimentent et entraînent et s'engagent dans un conflit comme le Vietnam
on a été assez nombreux à dire c'est pas normal qu'on n'intervienne pas sur ceci ou cela, c'est pas normal qu'on intervienne en Syrie ou en Libye, on sait très bien pourquoi on a envoyé nos hommes et des bombes sur les Libyens pour créer le chaos après. Que là, on se couche devant un type qui nous dicte sa loi, sa force, et en disant si vous n'êtes pas content, je vais faire péter la planète.
Tout ça. Juste une petite chose. Enfin, hein, je suis pas négociateur, je suis pas dans le secret des dieux. Il y a quand même des accords qui, semble-t-il, n'ont pas été respectés de part et d'autre, et surtout de la part de l'Ukraine au départ.
Ah bon? Lesquels?
Les accords de Minsk. Et puis
Il y a aussi
des prises de position, des prises de parole de certains. Notamment de certains diplomates américains qui considéraient que l'Ukraine ne devait surtout pas se militariser, encore moins adhérer à l'OTAN et ne pas se rapprocher de l'Europe. Donc faut pas jouer les naïfs aujourd'hui.
Non, on joue pas les naïfs.
Si la Russie s'engage en Ukraine. Quand les États-Unis interviennent en Amérique du Sud, ça gêne qui?
Ça me gêne aussi. Attends, je le condamne de la même façon.
Je sais pas. Apparemment, moi j'entends beaucoup moins de condamnations par rapport à ça. Moi je suis pas l'avocat de Poutine, on va être clair.
Là on parle de la santé. La santé, c'est ça qu'on juge. Maintenant, le passé, on l'a condamné. Le passé, on l'a condamné lorsque ils voulaient nous embarquer dans le bombier en Irak 2. Lorsqu'ils nous ont.
On n'est pas allé, on a bien fait.
Bien sûr, évidemment.
On a bien fait.
Raïd Chaibi, s'il vous plaît, sur la guerre en Ukraine.
sur le constat, bon, malheureusement, les choses sont faites, mais je suis d'accord sur le président de la République, Emmanuel Macron, quand il disait qu'on n'avait pas forcément bien préparé l'après-fin de la guerre froide, c'est-à-dire après la chute du mur, et comment on aurait dû restructurer, retravailler sur notre sécurité collective. Je pense qu'il faut continuer à soutenir logistiquement les forces ukrainiennes, surtout à l'approche de cet hiver qui s'annonce effectivement assez rude. L'Ukraine actuellement est en train de gagner millimètre par millimètre les territoires qui ont été annexés par la Russie. La Russie, pour moi, d'ores et déjà, elle a perdu la guerre de l'information, c'est clair. Ce qui est d'ailleurs embarrasse beaucoup Poutine. Maintenant, je pense, peut-être que ça paraîtra idéaliste, mais je pense qu'il faut aller vers une solution qui n'humiliera personne. Mais au vu du contexte actuel, ça me semble bien compliqué.
Compliqué. Ça vous choque, vous, Jean-Pierre Colombier, est-ce que, évidemment, dans le cadre de l'OTAN, que la France soutienne pleinement, qu'elle renforce surtout les équipes?
Moi, ce qui me gêne, c'est que...
Qu'est-ce qui gêne?
Ce qui me gêne, c'est qu'on s'engage dans un dispositif dont on ne connaît pas l'issue. Quand on envoie des avions d'attaque en Roumanie, quand on envoie des blindés, quand on envoie des infanteries en Estonie, pourquoi en Estonie d'ailleurs? Mais je comprends pas, c'est quoi l'idée? C'est d'être confronté directement à l'armée russe? C'est ça l'idée?
Non, c'est de protéger nos hommes qui sont déjà sur place.
Non, on protège pas nos hommes.
Mais si. Moi, je t'invite à aller sur le Twitter du chef d'état-major, par exemple, ou de la Légion ou de l'armée de terre, et tu vas voir toutes les manœuvres qui sont faites et qui étaient déjà préparées et coordonnées depuis un moment. On a des hommes en Roumanie depuis 3 mois. Donc, il est normal de faire des rotations. Et
d'envoyer des rafales.
D'envoyer des rafales parce qu'il faut qu'on s'entraîne sur tous les terrains. Il faut qu'on soit capable de s'entraîner sur tous les terrains.
Vladimir Poutine a-t-il perdu? C'est la question que je pose.
Mais je l'ai dit depuis le départ.
Ce sera ma dernière question.
Vladimir Poutine, au mieux, il a 2 millions d'hommes. En face de lui, il a 40 millions de résistants. Donc il est mort, quoi qu'il arrive.
Il est mort.
Il faut relativiser tout ça.
Jean-Pierre,
Je crois qu'on a trop vite enterré le potentiel de réaction de l'armée russe, très largement. Je te l'avais dit, hein, Adil, moi je vois très bien une contre-offensive russe, comme ils l'ont fait d'ailleurs sur bien d'autres terrains d'opération. Peut-être que je remonte très loin dans l'histoire. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Stalingrad. Hein.
Je pense qu'ils s'attendaient pas à cette résistance, je pense, au point que maintenant il fait appel à la Biélorussie pour faire un espèce de commandement commun. Oui, comme je disais tout à l'heure, il a perdu déjà la guerre de l'information. Je pense qu'il ne s'attendait pas à cette résistance. Et peut-être que ça sera une situation de Stalingrad inversée, on verra bien.
Merci messieurs, merci à Raed Chaibi.
Merci à vous.
Le président donc de l'Association de la coopération franco-tunisienne. Merci à l'élu régional, donc Philippe Ledjibouriaki.
Et porte-parole de l'écologie au centre.
Ça y est, c'est fait.
Qui est venu avec un très beau vélo.
C'est officiel.
Depuis
est venu avec un beau vélo.
Un beau vélo et merci à Valérie Pécresse. Ouais, et ça. Je rappellerai vélo aux franciliens et aux franciliennes que la région vous donne une prime de 500 euros pour un achat jusqu'à 1000 euros, sauf si votre municipalité ou notre collectivité vous donne le même complément.
Voilà, et l'info est passée.
500 euros
avec des batteries qu'on ne sait pas recycler. Mais c'est pas grave.
Même celle-là, on les recycle. C'est
Jean-Pierre Colombiès, à bientôt.
À très bientôt, Adil. Et aux auditeurs.
Et aux auditeurs.
Vous êtes aux auditeurs.
Vendredi, là,
vas-y, rappelez.
Je serai sur scène vendredi dans le 19e arrondissement, comédie policière. Arruel Malmaison la semaine prochaine. Voilà, la vie continue.
Bravo.
La vie théâtrale continue.
Bravo. Allez, merci à tous. Bilal Lenman, c'est 20-21. Vanessa, 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir. Non, on m'a dit Vanessa, non, c'est pas ce soir. C'est Bilal. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir. Mais surtout,
on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.